Nous sommes toujours dans Marc depuis déjà quelque temps et nous allons reprendre la lecture à partir du chapitre 6, verset 30. Donc, je vais donc lire ces 14 versets et puis ensuite nous allons prier une nouvelle fois avant donc de préparer ces quelques versets. Donc, je commence la lecture. Marc, chapitre 6. Verset 30. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y a beaucoup d'allant et de venant, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et toutes les villes ont accouru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes. Voilà donc cette lecture de ce matin. Nous allons donc passer encore un moment dans la prière. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour cette lecture. Nous voulons te remercier pour cet évangile. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous parler ce matin, Seigneur, par cette lecture, par ce passage biblique. Nous te remercions, Seigneur, parce que même si nous sommes dans des temps troublés, même si nous ne voyons pas d'issue, Seigneur, à nos situations, nous savons, Seigneur, que tu es ce Dieu présent et tu es présent, Seigneur, auprès de chacun de nous. Nous te demandons, Seigneur, tes grâces, tes bénédictions pour chacun de nous, d'une manière personnelle, d'une manière familiale et d'une manière aussi sur le plan de la communauté. Nous te remettons ces instants. Amen. Alors, avant de commencer cette étude, cette semaine, nos yeux étaient braqués sur SpaceX. Et lorsque on voit la puissance de l'homme, la puissance de l'homme dans l'espace, nous sommes surpris. Nos enfants, donc bien sûr, même sur le plan scolaire, donc tous les yeux étaient rivés sur SpaceX. Et c'est vrai que c'est une prouesse technique de voir ces fusées partir et maintenant ces fusées revenir sur Terre. Bon, moi, je suis d'une ancienne génération. Donc, je me souviens des images d'Armstrong, de Louis Armstrong, là, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et c'est vrai que les prouesses techniques sont extraordinaires. Mais cette semaine, avec notre famille, nous lisions un passage, nous étions sur un verset d'Abdias qui dit ceci: L'insolence de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les creux des rochers, dont l'habitation est élevée, et qui dit en toi-même, Qui me fera descendre jusqu'à terre? Et il est dit ceci, quand tu prendrais de la hauteur tel un aigle, quand ton nid serait placé parmi les étoiles, vous voyez, ça c'est une parole biblique, hein, donc l'homme peut aller jusque dans les étoiles maintenant, hein, je t'en précipiterai, oracle de l'Éternel. Et donc, quand on voit cette puissance de l'homme, nous sommes surpris, mais nous verrons ce matin la puissance de Dieu. Et donc, Marc insiste sur cette puissance de Jésus, hein, que nous l'avons entendu avec Walter, hein, Jésus, fils de Dieu. Hein. Et donc, nous avons vu aussi que dans Marc relate beaucoup de miracles. Il relate 18 miracles. Et ce texte de ce matin nous montre encore cette grande puissance. Et donc notre Seigneur Jésus, et je me souviens de ce mot dans la colombe, je ne sais plus si la version Semeur ou colombe, mais c'est de dire Jésus est plus fort, plus fort, plus fort. Oui, il est vraiment très fort. Et donc, à cette période-là, le Seigneur Jésus, donc bien sûr, il est aussi face à une opposition dure. Et nous l'avons vu précédemment. Alors ce miracle, bien sûr, on le retrouve dans les quatre évangiles. Et c'est dans Marc, le premier évangile écrit dans les années 65 après Jésus, c'est le premier qui a pris sa plume, nous l'avons entendu, pour raconter Jésus et le faire résonner pour les hommes et les femmes de son temps. Les évangiles n'ont pas été, même s'il y a quatre évangiles, les évangiles n'ont pas été transmis comme ça. Ils ont été transmis dans des temps particuliers. Et cette période, donc 65 après Jésus-Christ, était une période particulière, comme nous sommes aussi dans cette période particulière. Et nous voyons justement ces miracles, cet ensemble de miracles. Et c'est là que Dieu nous montre, là, même si nous sommes dans une période difficile, notre Seigneur est plus grand que tout. Alors, bien sûr, cet évangile est différent de celui de Luc. Sa théologie n'a pas la hauteur de vue et celle de Jean. Sa connaissance des Écritures n'ont pas plus celle de Matthieu. Il a ouvert la voie à un moment précis dans l'histoire du monde. Et c'est une merveilleuse invitation d'aller plus loin avec ce Jésus tout-puissant. Dans notre temps de trouble avec le Covid et ses conséquences, la lecture de Marc nous montre que Dieu est tout-puissant, plus fort que tout. Et nous pouvons dire ce matin, je rebondis, merci Walter pour ce verset, ne crains pas. Et moi, j'étais parti aussi sur cette notion-là, ne crains pas, aie confiance, le Seigneur Jésus sait. Quelle que soit votre situation, ne crains pas, aie confiance, notre Seigneur Jésus sait votre situation. Dans ce texte, nous sommes juste après l'exécution de Jean-Baptiste. Donc là, le Seigneur Jésus a également une confrontation dure. Hein, il est surveillé, il est complètement contrôlé. Et en plus, il y a l'exécution de Jean-Baptiste. Peu avant, Jésus avait envoyé ses disciples en mission pour enseigner. Et de retour, les douze lui racontent ce qu'ils ont vécu. Ils sont fatigués. Et le lieu, et nous le voyons dans ces quelques versets, plusieurs fois, il y a cette notion, ce lieu est désert. Et ils n'ont pas eu le temps de manger et ils sont devancés par une foule. Et Jésus est pris de compassion pour cette foule. On peut presque le ressentir en lisant ces lignes. Cette foule a quelque chose de touchant. Elle évoque le désarroi, l'humanité désorientée et qui pourtant désire entendre les choses de Dieu. Cette foule est dans l'attente et l'image est belle. Quel relief! Car ce n'est pas simplement Jésus de Nazareth, mais c'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. C'est Dieu qui sort de l'éternité pour se révéler et se manifester à l'homme. Et la méthode de Dieu pour voir ou pour restaurer son témoignage consiste à mettre ou à remettre, comme dans Jean, son fils en évidence. Et là, nous voyons son fils Jésus-Christ en évidence. Il est placé devant les yeux du cœur de ceux qui sont à lui, avec tout ce qu'il représente de grand, de céleste, de spirituel dans sa personne infinie. Et ce matin, le Seigneur Jésus veut nous montrer ça, sa puissance. Il est là, il est puissant, il est céleste, il est spirituel et il veut intervenir dans chacune de nos vies. Alors la première chose, c'est ce temps de repos. Alors lorsqu'une église prépare une rencontre d'évangélisation, parce que là c'est une sacrée rencontre d'évangélisation, tout est préparé, l'accueil, la demande de fonds, la formation, la préparation de littérature, donc tous les articles, etc. Et là, dans ce texte, tout est différent. N'oublions pas qu'une période de repos dans la présence du Seigneur, loin des hommes, est nécessaire après une période où l'on a été occupé et aussi. Nous pensons à ces disciples de Jean qui sont revenus de leur service affligés, hein, leur cœur lourd par la mort de Jean-Baptiste. Les uns et les autres ont besoin de la paix que procure la présence du Seigneur, qui est bonne tout autant pour relever les cœurs abattus et pour mettre un frein à un enthousiasme exaspéré. Mais le repos est de courte durée. Et déjà, cette foule, elle se rassemble. Cette foule se rassemble dans un lieu désert. Alors maintenant, quelques mots sur cette foule, parce que cette foule, c'est impressionnant. Cette foule est là, importante. Alors, nous avons lu qu'ils étaient 5 000 hommes. Et dans Matthieu, il est dit au chapitre 14, verset 21, ils étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et sans les enfants. Donc, déjà avec les femmes, on est déjà à 10 000, mais généralement en Israël, où les Juifs, ils avaient de nombreux enfants. En Israël, dans certains villages, simplement pour vous donner une précision sur le nombre d'enfants, dans certains villages, par famille, il y a un minimum de 8 enfants. Alors, je ne sais pas parce s'ils veulent se rapprocher du chiffre 12 comme les 12 tribus, mais les enfants sont très, très nombreux. Et donc, le Seigneur Jésus accueille toute cette population et il ne rejette personne, quelquefois même dans certaines communautés dites évangéliques. Je me souviens un jour, il y avait dans une communauté évangélique plus charismatique, ils avaient refusé des frères et des sœurs dans la chorale parce qu'ils étaient trop âgés. Mais là, le Seigneur accueille tout le monde, il les accueille, il les nourrit. Et lorsqu'on pense à ce nombre, comme c'est un nombre important. Et nous pensons, lorsqu'on voit cette foule, Nous pensons, nous avons tout de suite une pensée avec l'Ancien Testament lorsque le peuple était nombreux dans le désert. Dieu a aussi fourni la nourriture à tout ce peuple. Et donc, cet exemple nous montre justement cette possibilité que Dieu nous donne. Il est puissant. Il prend soin, un soin particulier pour ce peuple. Et Jésus est celui que nous attendions et dans lequel nous pouvons mettre toute notre confiance. Ne crains point, aie confiance, Jésus le sait. Et personne parmi les chefs et les anciens, les scribes, n'avait pu nourrir ce peuple. Et dans cette circonstance, les disciples n'entrent pas non plus dans la pensée de leur maître. Les disciples ont une attitude un peu spécifique, on pourrait dire peut-être un peu égoïste. Ils jugent préférable de les renvoyer afin qu'ils aillent eux-mêmes acheter du pain. Nous voyons ça au verset 36. Le lieu est désert, il est dit, et l'heure est avancée. Et donc, les disciples proposent au Seigneur Jésus, mais renvoie-les. Il se fait tard et nous n'avons rien pour eux. Souvent, nous ressemblons à ces disciples ou face à une situation, nous disons aussi, c'est impossible, nous ne pouvons plus rien faire. L'insuffisance des possibilités humaines est clairement démontrée dans ces passages. Mais le Seigneur est là et il va prendre en main la chose, la situation. Il n'avait même pas besoin de ces quelques pains pour rassasier cette foule. Et dans sa grâce, il se sert de ce qu'il a mis entre nos mains. Et par sa puissance, il le transforme. Il le transforme en une grande abondance. Nous avons vu dans ce passage, ils mangèrent et furent tous rassasiés. Et on ramassa des morceaux qui étaient de reste, 12 paniers. Mais alors, quelle réponse Jésus leur donne? Allez-y, vous, donnez-leur à manger. Est-ce que parfois le Seigneur ne nous dit pas la même chose? Combien ils étaient loin d'avoir la pensée de notre Seigneur Jésus. Ils ne se montraient pas à la hauteur du service qu'il leur avait confié. Ils devaient encore être formés par ce maître Jésus. Celui-ci leur dit, vous donnez-leur à manger, au verset. C'est au verset 37. Donnez-leur vous-même à manger. Eh bien, c'était le moment de prouver leur capacité au lieu de renvoyer cette foule. Et donc, nous voyons cette situation, un lieu désert, parce que c'est l'ambiance, le lieu est désert et la nuit est là. Et ça, c'est des inconnus. Et l'être humain n'aime pas différentes inconnues vis-à-vis de l'avenir. Et souvent, nous sommes dans cette inquiétude. Une chose est de connaître les temps que nous vivons, d'en discerner le sens spirituel selon les Écritures. Autre chose est de se livrer au pessimisme. N'oublions pas que Jésus est là. Jésus sait et qu'il est Dieu. Rien, absolument rien, ne lui force la main. Absolument tout lui est soumis. Il entend le cri de ses enfants qui savent prier selon la situation mondiale actuelle et déclenche ses interventions. Même en même temps, il s'occupe de la foule affamée, afin de la nourrir du pain du ciel, mais pas sans le secours de ses disciples. dans le désert moral de ce monde, et avant que ne se termine le temps de grâce, des âmes doivent être nourries par la parole. Alors soyons disponibles afin que Dieu pourvoie, qui pourvoie à tout, puisse faire de nous ses collaborateurs. C'est 1 Corinthiens 3 qui nous indique ceci. Sa passion le pousse à agir dans les deux domaines, dans le domaine spirituel et aussi dans le domaine matériel, pour subvenir aux besoins du corps. Et ce que l'on peut voir dans ce texte, c'est que le spirituel passe avant. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et même dans une version, c'est pas cette notion d'enseigner. Bien sûr, il enseignait beaucoup de choses, mais j'ai vu une traduction. Le Seigneur Jésus a pris du temps. Dans d'autres versions, c'est qu'il enseignait longuement, donc plusieurs heures. Puis, comme le soir est venu, il calme leur faim. D'après cet exemple, comment faut-il agir si les hommes ont des besoins matériels? Il est bon que nous subvenions selon qu'il est en notre pouvoir, mais donnons toujours la priorité à la parole. Moi, toute ma jeunesse, et même des années après, j'ai vécu dans une communauté qui, en même temps, avait un centre d'hébergement pour traiter des problèmes d'alcoolisme ou de dépendance, d'addiction, etc. Et c'était un centre où il y avait beaucoup d'hommes bon, qui avaient tout perdu, leur famille, etc., leur emploi. Et donc, c'était un centre qui tournait à peu près par année avec une cinquantaine de personnes. Et souvent, le fondateur assistait sur cette notion spirituelle avant de donner, d'aider, etc. Et je crois que c'est une bonne chose. Et le Seigneur nous montre là, voilà comment nous devons agir dans ce monde. La nourriture dont il dispose, grâce à la prévoyance de ce petit garçon, 5 pains et 2 poissons, paraît complètement insignifiant. Mais le Seigneur va nourrir 5 000 hommes. Quand on dit 5 000 hommes, ils étaient des milliers, hein. Lorsque Dieu demande aux siens un service, il leur fournit toujours tout ce qui est nécessaire pour l'accomplir. Il rend efficaces les ressources qu'il leur a confiées afin qu'elles servent à la bénédiction des âmes. Alors ce matin, je répète, ne crains point, aie confiance, le Seigneur le sait. Ensuite, nous allons nous concentrer sur le miracle. Nous voyons que le peuple a été rassasié. Il y a ce verset qui dit « Mon peuple sera rassasié de mes biens, dit l'Éternel. » Et c'est dans les deux sens, c'est dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine maternel. Et il est dit dans un psaume « L'Éternel a rassasié l'âme altérée et a rempli de bien l'âme affamée. » Alors si aujourd'hui vous êtes affamé ou altéré, le Seigneur peut vous rassasier. « Mon âme est rassasiée et ma bouche te louera avec mes lèvres qui chantent de joie. » Ça c'est le psaume 63, verset 5. Et le Seigneur Jésus comble ses enfants. Qu'est-ce que c'est pour lui, 5 pains et 2 poissons? Donc là, c'est un premier miracle, c'est 5 000 hommes, mais il y a eu un autre miracle, 4 000 hommes, mais le nombre n'est pas important. Dieu veut nous montrer par ces miracles de Jésus que les moyens dont l'homme dispose pour assurer ses besoins sont sans aucune mesure avec ses propres ressources. Et nous l'avons cité tout à l'heure, dans l'Ancien Testament avec Moïse, c'est avec abondance que Dieu nourrit. Dans le Nouveau Testament avec notre Seigneur Jésus, dans Marc, c'est aussi avec abondance que Dieu donne. C'est tout le contraire avec les disciples. Et nous pouvons voir au fil des siècles, c'est toujours avec abondance. J'aime bien Georges Müller parce que j'ai eu cette grâce d'aller à Bristol, de voir l'œuvre de Georges Müller. L'immense bâtiment, son église était toute petite, et c'est aussi avec abondance que la nourriture a été fournie dans cet orphelinat. Et c'est avec abondance que Dieu fournit. Et nous aussi, c'est aussi avec abondance que Dieu va nous nourrir. Alors, une nouvelle fois, ne crains pas, aie confiance, Jésus sait. C'est du côté de Dieu que nous trouvons la réponse, et non pas auprès de nous. Aussi, le Seigneur se présente-t-il au milieu de ses brebis dispersées. Et la foule avait suivi Jésus dans cet endroit désert pour écouter son enseignement. Et Jésus donc interpelle, nous l'avons vu, ses disciples. Et Jésus pointe l'impossibilité pour les disciples de satisfaire les besoins de la foule. Mais là où il y a impasse, et là où il y a impasse dans nos vies, et cette impasse, nous pouvons quelquefois la sentir, quelquefois cette impasse, elle peut être aussi sentie par vous et vos proches, et cette impasse peut être aussi sentie par vous, par votre famille, par vos proches, par vos amis chrétiens, mais attention, là où il y a impasse, Jésus ouvre une porte que nul n'envisageait. De la même manière, il va multiplier les pains et les poissons et nourrir cette foule nombreuse. Nous aussi, nous sommes confrontés de temps en temps à des impossibilités. Mais au fil des expériences, et au fil des miracles que nous voyons, nous pouvons dire avec confirmation, avec certitude, ne crains pas, aie confiance, le Seigneur le sait. Humainement parlant, il n'y a rien qui puisse réellement rassasier notre besoin spirituel. Alors chacun essaie de s'en sortir comme il peut. C'est d'ailleurs la solution. C'est d'ailleurs la solution que les disciples proposent, que chacun se débrouille et trouve de quoi manger ou dormir. Et de nombreuses personnes essaient de combler leur vide en cherchant à gauche et à droite. Mais seul le Seigneur Jésus peut satisfaire notre besoin. Le Seigneur Jésus le dit souvent, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura pas faim. » Celui qui croit en moi jamais n'aura soif. Jésus veut et peut combler la faim spirituelle comme la faim matérielle de tous. Alors, si aujourd'hui vous avez faim d'une véritable vie, alors tournez-vous simplement vers lui. Et demandez-lui de vous rassasier. Dans Ézéchiel, il est dit ceci, « Ce sera moi qui paîtrai mes brebis et qui les ferai reposer, dit le Seigneur. » Donc vous voyez, Il nous aide à marcher, hein, à paître lorsque comment, le berger paie ses brebis. La brebis suit le maître et la brebis est nourrie et la brebis est reposée. Et sous la conduite du divin berger, nous sommes copieusement nourris et le Seigneur les nourrit de la vérité solide. L'écriture est pour l'âme un véritable aliment que le Saint-Esprit conduit jusqu'au cœur. Jésus lui-même est la vraie nourriture pour tous les croyants du monde entier. Notre grand pasteur, notre grand berger, nous promet ici que lui-même donnera cette nourriture sacrée. Il est le vrai berger, le Messie attendu, celui qui est venu pour nous sauver et nous relever, celui que le peuple d'Israël attendait au travers de son geste. Il parle du cœur de Dieu. Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu de bonté, et les compassions de Jésus se manifestent aussitôt. Alors, sachez que notre Seigneur est tout-puissant, et Jésus seul pourvoit à tout. Mais il veut aussi nous utiliser comme collaborateurs. Nous n'avons pas grand-chose par rapport à lui. Lui est tout-puissant. Et il y a même eu des restes, c'est ça qui est assez impressionnant, de ces quelques pains et de ces quelques poissons, des restes abondants. Ces maigres ressources représentent ce que nous avons reçu. Et qui, avec grâce et la bénédiction du Seigneur, sera tout à fait suffisant pour combler les besoins de plusieurs. Sagesse, puissance, amour. Une fois de plus, nous voyons briller ensemble ces caractères de ce parfait serviteur. Alors, le temps passe, je ne peux pas continuer. Et j'aimerais donc vous dire en conclusion, nous qui ressentons profondément nos insuffisances, de quelque nature qu'elles soient, dites-vous qu'elles donnent au Seigneur l'occasion de nous combler et de nous enrichir de ses grâces. C'est ce qu'avait compris l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait ceci. C'est pourquoi je prends plaisir dans les faiblesses. Dans les faiblesses. Lorsqu'il était faible, il était heureux. Dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, même dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car l'apôtre Paul disait ceci, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. Alors, ne crains pas, aie confiance, Jésus sait. La foi croit ce que Dieu dit dans sa parole et s'approprie tout ce que Christ est, tout ce qu'il a. Ainsi, la présence de la parole, pleine de grâce et de vérité, devient un fait personnel et journalier. Tout ce que la parole est éternellement, nous pouvons le faire notre et vivre une vie chrétienne normale. La parole créatrice accomplira dans nos vies la promesse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu commence cette œuvre en chassant la mort et les ténèbres et